et merci d'avoir choisi Europe 1 il est midi.
La journée, il m'envoyait des messages en me disant « je sais que tu es à tel endroit ». Ça amène très vite à la psychose.
Un exemple parmi d'autres de victimes de violences conjugales, c'est aujourd'hui qu'arrive à l'Assemblée la proposition de loi visant à les protéger. Explication Pierre, dès le début de ce journal.
La grève aura coûté 8 euros par jour et par salarié jusqu'à présent. Elle aura aussi coûté aux étudiants non grévistes beaucoup de stress. Exemple à Rennes, où Juliette est tout simplement empêchée de travailler et de passer ses examens.
Quand on dit qu'on veut passer nos partiels, eux nous disent qu'on est des salbourges égoïstes et qu'eux, ils pensent à notre avenir et qu'on les remerciera plus tard. Ça nous paraît mais tellement aberrant.
Et puis, il n'y a pas que la réforme des retraites au menu du gouvernement. Accessoirement, il y a tout un pays à faire fonctionner, Pierre. Nous rejoindrons nos journalistes politiques au séminaire gouvernemental.
Dans ce journal également, limogeage ou licenciement. Ségolène Royal, bientôt remerciée de sa fonction d'ambassadrice des pôles. Michaël Darmon nous en parle. À Strasbourg, les députés européens britanniques cherchaient l'erreur. Bah oui, ils ne sont plus européens. Du coup, ils plient bagages.
Les députés européens ont des chauffeurs. On les traite comme des dieux. On ouvre les portes pour eux. Il y a pire comme mode de vie, soyons honnêtes.
Et ils disent bye-bye à pas mal de privilèges.
Nous irons à l'Alpe d'Huez pour le Festival du cinéma. Mathieu Charrier nous y attend et il nous présentera les films, bien sûr, qui sortent aujourd'hui.
La météo, Céline Dacosta, encore de la pluie et du vent aujourd'hui.
Oui, des averses qui seront encore présentes cet après-midi entre la Gironde, les frontières du Nord, en passant par la région parisienne. Avec de bonnes rafales de vent, le ciel sera également bien perturbé près de la Méditerranée.
Merci Céline. Météo complète, midi et demi sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc aujourd'hui, Pierre, que le texte destiné à protéger tous ceux et surtout toutes celles qui sont victimes de violences conjugales arrive à l'Assemblée.
Et les mesures, elles sont nombreuses. Faciliter la saisie des armes, la notion d'emprise reconnue dans le code pénal, la levée de l'autorité parentale en cas d'homicide. Et puis, il y a une mesure qu'on connaît moins, Ève Roger, c'est limiter l'espionnage dans le couple, c'est-à-dire ?
Alors vous savez, le harcèlement par un mari ou un ex, ça passe par les violences psychologiques, l'emprise, les menaces, mais aussi le fait d'espionner une femme, lui montrer « attention, je te surveille ». Je vais vous raconter l'histoire de Salomé. Son ex a traqué ses faits et gestes plusieurs mois après leur séparation.
Je sais que certaines nuits, il dormait dans sa voiture devant mon appartement. Et la journée, il m'envoyait des messages en me disant « je sais que tu es à tel endroit ». Ça amène très vite à la psychose. J'avais la sensation qu'il avait des complices, que certaines personnes dans la rue me suivaient. Donc je me retournais. Enfin, il y a eu une période de plusieurs semaines où c'était très impactant et assez dur psychologiquement.
Alors c'est grâce à un logiciel espion, acheté quelques dizaines d'euros sur Internet et connecté au portable de Salomé, que son ex a pu savoir où elle était, où elle se déplaçait à n'importe quel moment, sans avoir besoin de la suivre. C'est ce qu'on appelle la géolocalisation. Et pour les auteurs de la loi, cette façon de pister une femme, c'est à la fois une pression insupportable pour elle, c'est aussi une mise en danger, car le conjoint violent sait toujours où elle se trouve s'il veut lui faire du mal. C'est donc la raison pour laquelle ils ont décidé d'interdire l'utilisation de ces outils de géolocalisation sans le consentement du ou de la propriétaire du portable, avec une sanction à la clé, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Merci Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Et donc ce texte est porté aujourd'hui devant l'Assemblée par Bérangère Couillard, députée LREM, avec son collègue de l'Assemblée, Guillaume Gouffier-Chat. Bonjour Anne-Cécile Maillefer.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fondation des Femmes. Qu'est-ce qui doit être fait en toute urgence?
Sur les sujets de cybersurveillance et de cyberviolence de la part d'un conjoint, c'était un peu un angle mort pour le moment. C'est un sujet qui n'est pas vraiment connu du grand public ni des politiques. Et donc le fait qu'on puisse amener des mesures qui permettent de mieux contrôler, de mieux empêcher en fait les conjoints violents de surveiller grâce à des logiciels espions leur conjointe ou ex-conjointe, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. C'est une bonne chose que ce soit dans la proposition de loi en ce moment sur le Grenelle des violences faites aux femmes.
Ces mesures doivent aller plus loin aujourd'hui, selon vous, Anne-Cécile Maillefer. Est-ce qu'on peut véritablement prendre cette problématique et la transposer ailleurs sur l'espionnage dans le couple, comme on le disait tout à l'heure?
Oui, il faut absolument aller plus loin par rapport à ce qui était aujourd'hui dans la loi. Ça fait partie, c'est une proposition en fait, qui a été discutée par les associations pendant le Grenelle des violences conjugales, qui a été vraiment explicitée. C'est-à-dire qu'on a amené à la connaissance des politiques le fait qu'aujourd'hui, la cybersurveillance par les conjoints, c'est vraiment quelque chose qui est fait de manière assez courante par les conjoints violents. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas du tout anecdotique. Et donc, interdire, par exemple, de géolocaliser sa conjointe sans son consentement, ça paraît basique, mais pour le moment, en tout cas, c'était pas dans la loi. Donc ça va permettre de limiter ces comportements-là qui sont absolument inacceptables et qui sont des violences qui sont numériques.
Il y a des conséquences quand même. Il y a des conséquences de cette cybersurveillance.
Il y a des conséquences, c'est-à-dire aujourd'hui.
Bah oui, c'est-à-dire envers les femmes. Ève Roger est avec nous.
Oui, la question. On se demandait, pour une femme être surveillée, qu'est-ce que ça a comme impact comme ça?
Alors, l'impact, c'est vraiment. En gros, ça pourrit la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes qui, d'ailleurs, dans un premier temps, ne savent pas forcément qu'elles sont surveillées. C'est le propre de ces cyberlogiciels. Donc, ça peut être, par exemple, un conjoint qui a installé une application espion dans votre téléphone et vous ne vous en rendez même pas compte. Et ce qui lui permet de lire tout ce que vous écrivez, de voir tout ce que vous faites, de voir même où vous allez. Et donc, ça permet de surveiller. Déjà, en soi, c'est par rapport à la liberté, c'est vraiment un vrai problème. Et puis surtout, à partir du moment où vous êtes en train d'avoir par exemple, vous écrivez des textos à une association pour lui dire que vous voulez peut-être partir de chez votre conjoint, il va être au courant. Si vous appelez à l'aide, il va être au courant. Si vous avez vous démarrez une relation avec quelqu'un d'autre, il va être au courant. Donc ça peut amener à des comportements qui sont physiquement extrêmement violent aussi, et ça pourrit la vie parce que ensuite la femme, lorsqu'elle s'en rend compte, elle va aussi douter de tout. Elle ne va plus avoir confiance en rien, elle va avoir extrêmement peur que tous ces faits et gestes soient surveillés et quelque part,
d'où l'importance de ce texte qui arrive devant l'Assemblée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes.
Vous écoutez Europe 1 et midi 6, la suite de votre journal. Pierre Devineau, Raphaël Duchemin. Sur le front social, 42e jour de grève, Pierre, contre la réforme des retraites. Et cette question, ce matin, combien coûte le mouvement social à l'économie française?
Maud Descamps, vous nous révélez le coût de la grève pour les entreprises. Et j'allais dire, sans surprise, c'est la région parisienne qui est la plus touchée.
Et oui, puisque c'est la région la plus dépendante au transport en commun. Et donc, les entreprises ont dû payer des taxis, des nuits d'hôtel, des gardes d'enfants à des milliers de collaborateurs. Et quand on fait les comptes, eh bien, ces frais supplémentaires représentent 233 euros par salarié sur 40 jours de grève. Ce sont les estimations du MEDEF Paris. Autre chiffre que je suis en mesure de vous communiquer, c'est le nombre d'entreprises qui ont demandé un recours au chômage partiel. Elles sont 531 à avoir demandé en bénéficier. Vous savez, c'est ce système qui permet d'éviter de licencier quand il y a une baisse d'activité. L'État va venir compenser les salaires et un quart de ces entreprises sont en Île-de-France. Et puis, autre élément important, sachez que les entreprises les plus touchées vont pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôts et de taxes, en plus du report de charges sociales qui a déjà été mis en place depuis mi-décembre.
Merci. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Notez que le gouverneur de la Banque de France a minimisé l'impact de cette grève sur la croissance. Cette dernière pourrait avoir amputé 0,1 point au maximum au quatrième trimestre 2019. Autre aspect de la grève, les blocages, opération Port Mort aujourd'hui à Marseille, au Havre, sur d'autres sites également. Climat tendu aussi dans les facs.
À Rennes 2 par exemple, Pierre, les partiels prévus dès lundi dernier ont encore été reportés. Juliette est étudiante et elle n'en peut plus de ce qui l'empêche de travailler et de passer ses examens.
Moi, ce qui me choque le plus, c'est que 250 étudiants prennent des décisions qui massacrent les partiels de plus de 21 000 étudiants. Et ça nous révolte. Et c'est pour ça qu'on a créé cette pétition, parce qu'on a l'impression que cette minorité de bloqueurs a totalement le pouvoir. Notre président de la fac, on n'a pas l'impression qu'il joue son rôle. Quand on dit qu'on veut passer nos partiels, eux nous disent qu'on est des sales bourges égoïstes et qu'eux, ils pensent au bien de la France, à notre avenir et qu'on les remerciera plus tard. Ça nous paraît mais tellement aberrant, parce que nous, on est ici à la fac pour étudier, pour avoir un diplôme. Dès qu'on dit ça, on se fait insulter et même parfois, ils peuvent user de la violence.
Voilà, propos recueillis par François Coulon.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 9, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Mercredi, Conseil des ministres et séminaire gouvernemental, car au-delà de la réforme des retraites, il y a accessoirement d'autres sujets à traiter pour faire fonctionner le pays, Jean-Rémy Baudot.
Oui Pierre, ce séminaire c'est un rendez-vous désormais habituel. Tous les ministres ont actuellement sous les yeux un planning avec les prochains chantiers. Et vous avez raison, il n'y a pas que les retraites. C'est le message que l'exécutif tente de marteler. Il faut montrer qu'on ne travaille pas que sur cette réforme, expliquait un proche du Premier ministre. La liste est longue, retraite donc évidemment, mais aussi communautarisme, écologie, hôpital. Il faut accorder nos violons sur les principales réformes en cours, me confiait un ministre en début de semaine. On s'active pour poursuivre la transformation sociale du pays, plaidait ce matin un conseiller du président. Ce proche d'Emmanuel Macron l'explique, il faut maintenir le rythme et l'intensité des réformes. Un membre de cabinet renchérit, le but c'est de recréer une dynamique positive avant les municipales, car attention, oui, à partir du 24 février, l'exécutif n'aura plus le droit de faire la moindre annonce. C'est ce qu'on appelle la période de réserve préélectorale. Ce séminaire est donc le dernier avant les prochaines élections.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 en direct de l'Élysée.
Il est midi 10.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Ségolène Royal remerciée de son poste d'ambassadrice d'Épaule. A tout de suite. Il est midi 13, la suite de votre journal. Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Quelle est donc, Pierre, la vérité sur l'affaire Ségolène Royal?
Ça ferait un bon titre de roman. Hein.
Oh,
et
oui.
Pourtant, l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 n'est pas dans un thriller de Joël Dicker. C'est sa carrière qui est en jeu. L'exécutif la somme de faire taire ses critiques en lui rappelant son devoir de réserve et envisage même de mettre fin à ses fonctions d'ambassadrice d'Épaule.
Ce à quoi Ségolène Royal rappelle sa liberté d'opinion. Mais pour le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, invité ce matin d'Europe 1, il faut qu'elle arrête de jouer aux victimes.
Elle veut se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il y a un grand vide au Parti Socialiste, c'est très respectable et on verra ça dans les années à venir. Mais la moindre des choses dans ces cas-là, c'est qu'elle démissionne de sa fonction. Et je trouve indécent pour quelqu'un qui a été longtemps député, qui a été longtemps ministre, ce manque de sens de l'État qui fait qu'elle dise qu'elle veut être virée plutôt que de partir à partir du moment où elle ne veut plus être ambassadrice mais candidate. Elle part, elle est candidate, mais elle doit respecter les fonctions qui lui avaient été confiées. Si elle ne le fait pas, c'est pas la peine de jouer les caliméros et de se faire passer pour une victime.
Jean-Christophe Lagarde, ce matin, avec son franc-parler au micro de Mathieu Béliard. Bonjour, madame Michaël Darmon.
Bonjour.
Éditorialiste politique d'Europe 1. Dans le détail, qu'est-ce qu'on reproche à Ségolène Royal?
Alors, on le sait, elle est chargée donc bénévolement de traiter un sujet aux implications géopolitiques majeures, l'avenir de la banquise. Mais voilà, elle s'est exprimée à plusieurs reprises en critiquant le gouvernement et le président de la République. La liste des sorties est longue. Gilets jaunes, violences policières, retraite. À titre d'exemple, récemment, elle a encore déclaré « Un pays moderne comme la France a besoin de calme et de compétences ». Voilà, donc Ségolène Royal, eh bien, elle a fait fondre la patience du pouvoir. Prévenue déjà en 2018 par des courriers, elle n'a pas tenu compte des avertissements. Et en fait, son véritable titre est, on l'a compris, ancienne finaliste de l'élection présidentielle en 2007. Et elle se considère effectivement comme intouchable, sauf pour l'administration du Quai d'Orsay, qui ne badine pas avec le devoir de réserve.
Ça va se solder comment, cette histoire?
Eh bien, sa mission sera sûrement arrêtée par un prochain décret du Conseil des ministres, avec cet art subtil à noter du camouflet administratif, puisque le courrier qui lui a été envoyé est co-signé par le ministère de la Transition écologique, aujourd'hui dirigé par Elisabeth Borne, qui a été sa directrice de cabinet lorsque Ségolène Royal elle-même dirigeait ce ministère. Et du côté de l'Élysée, on n'est pas plus ému que cela, puisque dans l'entourage du chef de l'État, on fait remarquer que cette décision sera due à la fois à cause de ses sorties et de son bilan comme ambassadrice d'Épaule, jugée assez faible.
Donc, la voilà, Michaël, prête à se lancer pour la présidentielle de 2022.
Bon, quand la mission aura officiellement pris fin, bien entendu, il y aura le moment où elle va être drapée par le crime, frappée par le crime de lèse-majesté, lèse-finaliste de la présidentielle. Elle fera comprendre que la rupture est consommée. Bon, c'est pas faute quand même d'avoir voulu entrer en Macronie, parce que à chaque remaniement, elle y a cru, mais rien n'est venu. Elle fait partie, Ségolène Royal, c'est un peu dernier fleuron des guerriers politiques qui vibrent plus dans les batailles que dans la gestion. À chaque fois, dit-elle, il faut remonter sur le cheval. Son personnage agace ou séduit, mais ne laisse jamais indifférent. Or, c'est justement ce dont a besoin cette gauche décimée et sans incarnation, refaire parler d'elle pour rassembler socialistes et écologistes et tenter de s'opposer à Macron en 2022. Libérée, déchaînée, Ségolène Royal ne sera plus la reine des neiges, mais elle ne veut pas être la reine des pommes.
C'est bien signé Michaël Darmon du service politique d'Europe 1.
Il est midi 16, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Le Brexit, Pierre, c'est dans 2 semaines maintenant. Eh oui, ça finit par arriver, dites-moi. Le 31 janvier à minuit, Il n'y aura donc plus aucun Britannique au sein des institutions européennes cette semaine. Pour les 72 élus du Parlement européen, c'est donc l'ultime session plénière.
Et déjà, on prépare les cartons et on se dit qu'on passe à autre chose. Au Parlement de Strasbourg, le reportage d'Isabelle Horry.
C'est la dernière fois que le drapeau britannique flotte à l'entrée du Parlement de Strasbourg. Jude Kirtan-Darling, élue travailliste depuis 6 ans, a fini par s'y résigner. Elle trouve d'autant plus douloureux ses derniers jours parmi ses collègues.
On nous traite comme quelqu'un qui a besoin de pitié. Dans la même manière que les gens parfois traitent les gens qui ont un cancer ou une maladie terminale. On est triste et il faut avoir le temps pour faire le deuil.
Certains Britanniques semblent un peu désœuvrés, mais pas la verte Molly Scott-Cato. Elle ne veut pas entendre parler de deuil, elle veut travailler jusqu'à la dernière minute.
Je donne des interviews tragiques comme celle-ci par exemple, mais il y a aussi tous ces sujets sur lesquels je veux encore peser. Pour nos tout derniers jours, on va tout faire pour soutenir la transition écologique.
Celui qui jubile dans les couloirs, c'est Nigel Farage. Mais après 20 ans au Parlement européen, même ce grand Brexiteur partira avec quelques regrets.
Les députés européens ont des chauffeurs, on les traite comme des dieux, on ouvre les portes pour eux, le champagne coule à flot dans les réceptions. Il y a pire comme mode de vie, soyons honnêtes.
Strasbourg, Isabelle Horry, Europe 1.
Il est midi 17.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. On va s'intéresser au football, le football avec le match aller, et oui, de la Ligue 1 Monaco-PSG. C'est au stade Louis II. A tout de suite.
Il est midi 20, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
On a commencé par la fin, on termine par le début. C'est un peu ça ce soir, puisque Monaco accueille le PSG au stade Louis II.
Oui, et on verra si l'AS Monaco tiendra tête aussi bien au PSG que dimanche dernier. Il faut dire que Thomas Tuchel est face à un problème de riche. Hein. Il a trop d'attaquants de classe mondiale. Alors pour satisfaire tout le monde, pour tester aussi une nouvelle formule, l'Allemand a décidé d'aligner contre Monaco 4 attaquants, rien que ça. Simon Rubin.
Jouer avec 4 attaquants, ça a du panache, cela offre du spectacle. Le problème, c'est que quand près de la moitié de l'équipe attaque, cela crée des failles défensivement. Exemple dimanche, 3 buts marqués, mais aussi 3 buts encaissés. Pour autant, jouer avec Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria, est-ce une si mauvaise idée ? Pas forcément, répond notre consultant Alain Roche.
Moi, je veux bien qu'on condamne un peu les attaquants qui ne défendent pas trop. Et encore, je trouve qu'il y a certains joueurs dont Neymar qui a fait pas mal d'efforts. Mais je trouve que derrière, on a des joueurs qui doivent réfléchir aussi, pas faire n'importe quoi, ne pas se jeter. Voilà, mais je souhaite vraiment que ce Paris Saint-Germain-là puisse jouer encore avec ses 4 attaquants.
D'ailleurs, Thomas Tuchel n'a pas fait une croix sur ce système. Il ne désespère pas que tous les attaquants se mettent à défendre, à l'image d'un Neymar très investi. Et il ne désespère pas non plus que ses défenseurs montrent un autre visage. À un mois du 8e de finale de Ligue des Champions, Tuchel continue donc de jouer au petit chimiste, de tenter des mélanges et de nouvelles recettes. Mais attention, le temps presse.
Simon Rubin, puis d'autres matchs à suivre également à 19h. Nîmes, Rennes et Amiens-Reims.
C'est mercredi.
Oui.
On part au cinéma. Mercredi un peu particulier parce que Mathieu Charrier est à l'Alpe d'Huez au Festival du film. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Bon, vous n'êtes pas tout seul là-bas. J'imagine que les stars sont là.
Ah oui, avec de la neige et du soleil en plus, vous imaginez, elles se font pas prier
ça
pour
va,
venir.
Ça va,
j'ai même aperçu ce matin.
Aussi, hein.
Ben venez, je vous attends. Et on ira les rejoindre justement. J'ai aperçu ce matin certains membres du jury présidé par José Garcia sur les pistes, notamment DJ Bob Sinclair. Bon, l'histoire de se détendre un peu parce que cet après-midi, évidemment, retour en salle pour le début de la compétition. Alors hier soir, en ouverture, mais hors compétition, on a découvert le lion, vous savez, porté par Danny Boone et Philippe Catherine, qui ont fait le show sur la scène. Lui se dit agent secret, interné en hôpital psychiatrique. Catherine est son psy, vous imaginez. Et il va le délivrer pour partir ensemble à la recherche de sa fiancée enlevée. C'est un film aussi barré que ses deux acteurs. Et puis alors aujourd'hui au programme, il y a notamment Forte, l'histoire d'une jeune fille ronde qui veut faire de la pole dance. C'est Valérie Lemercier, sa prof, là aussi ça promet. Et on découvrira aussi le nouveau film de Michel Larocque dans lequel elle joue aux côtés de Stéphane de Groupe qui est fan des petits bonsaï, vous savez les petits arbres là, les petits arbustes. Les deux acteurs qui viennent d'arriver sur la station.
Oui, on sait ce que c'est qu'un bonsaï, hein, mais que...
Je précise, on ne sait jamais.
Pour les sorties de ce mercredi, d'abord une comédie française, Blanche Gardin et Manu Payet dans Selfie.
Oui, qui est un film à sketch sur les ravages des réseaux sociaux. Alors moi, mon sketch préféré, c'est celui porté par Blanche Gardin, mère d'un petit garçon atteint d'une maladie orpheline. Elle raconte leur quotidien, vous savez, sur les réseaux sociaux, elle se filme, elle collectionne des millions de followers jusqu'au jour où, miracle, leur enfant est finalement guéri. Et ils vont alors tout tenter pour garder ses fans, mais évidemment, ben le bonheur, il attire beaucoup moins que le malheur. C'est bourré d'humour noir, parce qu'à un moment, on se demande s'ils ne regrettent pas que leur petit garçon soit guéri. C'est vraiment à l'image de ce film qui croque notre société. Ça s'appelle donc « Selfie ».
Sans oublier 1917. Et là, c'est un film européen.
Oui, j'en ai déjà parlé, hein, qui est présenté à l'écran comme un unique plan séquence, c'est-à-dire sans montage. Alors, au-delà de la prouesse technique, il faut quand même dire que ça sert surtout l'expérience cinématographique. Hein. C'est pas juste pour faire joli. Une journée avec ces deux soldats chargés de traverser les lignes ennemies pour porter un message à leurs troupes, annuler un assaut, sauver des centaines de vies. La réalisation est virtuose, l'expérience cinématographique incroyable. C'est pourquoi, chers amis, je mets à 1917 5 étoiles sur 5.
Oh,
bah, on va réclamer tout le temps. Ça y est,
oui.
Bravo, et 3 étoiles pour selfie. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'à l'occasion de la sortie de 1917, on a réalisé avec les équipes d'Europe 1 un podcast qui revient justement sur toute la carrière de Sam Mendes depuis son Oscar pour American Beauty, en passant par Les Noces Rebelles. C'est James Bond aussi, vous savez, Skyfall et Spectre. Il a dépoussiéré le plus célèbre des agents secrets. Bref, si vous aimez le cinéma, notamment celui de Sam Mendes, allez écouter ça. Ça s'appelle Plan Séquence et c'est dispo sur les plateformes et sur Europe1.fr.
Merci Mathieu Charrier. N'oubliez pas la crème solaire.
Merci Pierre, à tout à l'heure. Nouveau journal à 13h sur Europe 1, bien sûr.
Il est midi 25.
Europe 1.
Restez avec nous, vous voulez être entrepreneur, vous voulez peut-être même être les entrepreneurs de demain. Soyez à l'écoute, c'est vous qui avez la parole. Dans quelques minutes sur la France Bouge Académie. À tout de suite.